France Culture.
Qui est Charles Wolf ?
Alors Charles Wolf, c'est un personnage déjà que je n'ai pas connu directement, mais qui était très présent dans les discussions familiales.
Qui est Charles Wolf ?
Je crois que c'était un collectionneur acharné. Il collectionnait beaucoup de choses, y compris des cailloux. Ça devait être compulsif, sans doute.
Les ondes englouties.
Il aimait bien les cabarets, la nuit, avec des gens qu'il rencontrait qui n'étaient pas toujours très fréquentables.
L'inconnu que tout le monde connaît.
Il s'occupait de radio, de musique. Il était copain avec beaucoup de monde.
Que tout le monde connaît.
Il faisait la bohème avec tous ceux qui... qui vivait ça à ce moment-là.
Chaque événement auquel il participait, il le notait.
Archiver sa vie, archiver son temps.
Il notait tout. Donc Charles Wolf était un vrai personnage à admirer.
Une discothèque politique.
Voilà, au travers notamment la collection de disques qu'il avait accumulés.
Écho d'Espagne.
Et qui avait fait l'objet d'après-guerre d'une démarche de mon grand-père.
La collection retrouvée.
Pour essayer de la récupérer.
L'histoire familiale raconte qu'il fallait renforcer les planchers avec, à cause du poids des 78 tours qui pesaient tellement pour ne pas effondrer les plafonds.
Voilà, donc un homme à la fois érudit, qui était brillant, qui avait des facettes un peu sombres. Et un homme touche à tout. Parce qu'indépendamment de la collection de disques, il aimait la peinture, il faisait du journaliste, il préfaçait des écrivains, enfin, c'était infini.
Entendre la guerre gronder.
C'était mon oncle que j'ai très peu connu, puisqu'il est mort, j'avais 2 ans. Il a été tué par la milice française, après avoir beaucoup œuvré pour la résistance.
En résistance, résistance, résistance.
Voilà, donc... j'ai eu des échos au travers de mon père et de mon grand-père, surtout. Voilà, de ce qu'il était, écrivain, artiste, journaliste, traducteur. Donc, un homme un peu protéiforme, on va dire.
Sur les traces de Charles Wolf, l'homme archive. Thomas Henry, Yvon Croisier. Épisode 1, les ondes englouties.
Je m'appelle Thomas Henry, je travaille à la documentation de Radio France dans un immense entrepôt dans le nord de Paris. On va entrer. C'est un lieu rempli de musique, de sons, de voix, et pourtant la première chose qui frappe quand on rentre ici, c'est le silence. La deuxième impression est visuelle. Il faut imaginer un immense entrepôt qui fait à peu près 2000 mètres carrés, qui est parcouru de colonnes à perte de vue, et au milieu de tout ça, des rayonnages. La troisième impression, elle est olfactive. Il y a un mélange de poussière et de papier que j'aime beaucoup et qui donne quelque chose de très chaleureux à ces lieux, alors qu'on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu froid. Entre ces murs sont conservées les collections de la documentation de Radio France, des disques, des partitions, des journaux. J'ai fini par comprendre que ce qui était intéressant ici, c'était la manière avec laquelle on s'était servi de tous ces objets pour faire de la radio au fil des décennies. Les disques sont un peu abîmés, il y a des repères tracés au crayon gras à leur surface pour délimiter des extraits à diffuser, les partitions sont couvertes d'annotations, les livres sont cornés, il y a des passages qui sont surlignés. Toutes ces petites traces d'usure, au départ, elles m'agaçaient un peu parce que ces objets ont été abîmés. Et en fait, maintenant, je les adore, je les cherche absolument partout. Je prends un chariot. Je me dirige vers les rayonnages de la discothèque. Et il y a 7 ans, j'ai découvert au milieu de cette fabuleuse collection un ensemble de disques. Les 78 tours sont les ancêtres des vinyles. C'est des disques un peu plus lourds, un peu plus fragiles, un peu cassants. On en a une très belle collection. Et au milieu des étagères de nos 78 tours, j'ai découvert un ensemble de disques sur lesquels une petite étiquette était collée. Sur cette étiquette, il était écrit « Collection Charles Wolff ». Et je me suis demandé qui c'était. Alors, je vais ouvrir un compactus, l'un de ces rayonnages mobiles qu'il y a absolument partout dans l'entrepôt. Je tourne un volant et j'ouvre une nouvelle allée. Je vais sortir une petite sélection d'archives radiophoniques. C'est des disques assez particuliers, des disques souples sur lesquels j'ai découvert des enregistrements, des archives radiophoniques qui ont été constituées par ce Charles Wolff. Un certain nombre de voix, aussi des reportages qui datent de la fin des années 30. Un jour, je suis tombé sur un texte dans le journal intime de Charles Wolff. Ça faisait des années que je menais une enquête sur lui, une enquête obsessionnelle à la recherche de la moindre de ses traces. J'étais complètement plongé dans ses archives, à essayer de déchiffrer sa correspondance, à parcourir ses carnets, à regarder à la loupe des vieilles photographies. Et j'ai lu quelques lignes qui m'ont fait frissonner. Je ne suis pas sorti de l'après-midi. De gros nuages ourlés de noir plein le ciel prédisaient un orage qui n'est pas venu. Je m'enfonce dans une mer de dossiers que je classe et découpe avec un soin minutieux. Je veux tout mettre au point avec l'arrière-pensée de laisser notre héritage à Fernande et moi en bon ordre. Que tout soit prêt, comme si demain ou tout à l'heure, un cataclysme devait tout engloutir et que des archivistes d'un siècle futur puissent tout trouver classé, étiqueté, rangé. Et quand j'ai lu ces quelques lignes, qui datent du 8 juin 1939, ça m'a fait frissonner. Parce que le cataclysme annoncé a bien eu lieu, très peu de temps après, mais aussi parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser que ce message m'était un peu adressé et que l'archiviste d'un siècle futur, c'était peut-être moi. Vous êtes historien. Face à nous, il y a deux caisses sur cette table dans lesquelles j'ai déposé un certain nombre de disques qui viennent de la collection de Charles Wolff. J'aimerais bien qu'on les regarde ensemble et que vous me disiez ce que ça vous inspire.
Oui, par exemple, ici on a, dans les voix contemporaines, Léo Lagrange, qui au départ était appelé Léon, et ça a été rayé, le N de Léon. Après, bien sûr, il faudra écouter ce à quoi ça correspond, mais la voix de Léo Lagrange, finalement, un des hommes les plus connus dans, j'allais dire, toutes nos banlieues, qu'elles soient rouges ou pas, dans le nord de la France particulièrement, mais un peu partout, les cercles Léo Lagrange aussi, et finalement, un homme dont on a peu la voix dans l'oreille. Hein.
Vous allez entendre une déclaration de M. Léo Lagrange, ministre des Sports. En créant le brevet sportif populaire, nous n'avons point eu l'intention de faire un miracle. Transformer physiquement la jeunesse d'un grand pays, lui donner à la fois le goût de la vie en plein air et le sens de la joie, tout cela constitue une œuvre longue, aux aspects multiples, aux incidences insoupçonnées. Le brevet sportif populaire est un élément de cette œuvre nécessaire.
L'archive suivante, le disque suivant, exactement. Alors là, pour le coup, c'est un homme qui a à la fois disparu et qui reste présent, le colonel Delaroque, étant à la tête d'une ligue qui est considérée comme fasciste, il est considéré comme un danger pour la République parlementaire. Et le fait que Charles Wolff l'ait gardé, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que ce qui l'intéresse, je crois, enfin, l'autoportrait que donne sa collection, parce que c'est ça qui est génial, c'est que ce qu'on a sous nos yeux, c'est, et à nos oreilles, c'est un autoportrait. C'est celui d'un homme qui voit discuter, respirer, mais de façon contradictoire, des éléments qui sont plutôt à l'extrême du spectre politique.
Voici que toutes les semaines, nous aurons la joie de vous parler fraternellement. Dans cette suite continue d'entretien, mes chers amis, nous nous interdirons non seulement les attaques personnelles, mais aussi des polémiques de journal à journal. Il suffit que les unes après les autres, par l'entremise hospitalière de Radio Cité, certaines feuilles puissent vous transmettre leurs inspirations, même venant de points opposés de l'horizon politique. Il serait malséant et fâcheux que ces déclarations successives, indépendantes, devinssent d'aigres dialogues échangés d'adversaire à adversaire. La tâche de critiquer sereinement les actes publics des hommes publics et de leurs partis est l'un des aspects de l'existence nationale. Pour être productive, pour être opportune, cette tâche exclut les polémiques privées.
C'est la caverne d'Ali Baba quand même. Il faut bien avouer, là, on est face à un trésor et on n'a qu'une envie, c'est de prendre le disque, d'ouvrir, avec tout ce que ça signifie comme bruit et le risque de dégradation que je suis en train de commettre d'ailleurs avec une étiquette qui vient de se décoller.
Une petite étiquette de la discothèque centrale de la radiodiffusion télévision française, donc la RTF.
Et ce sont des trésors, on pourrait continuer comme ça effectivement pendant des heures. Et par exemple ici, Irène Némirovski. Alors, elle est redevenue célèbre par l'objet de publication de ses ouvrages. Allez, c'est quoi, à partir des années 90-2000. Et c'est un disque dont je sais que vous l'appréciez particulièrement. Ah, ce disque d'Irène Némirovski. Au fait, pourquoi?
Parce que j'apprécie particulièrement ce disque d'Irène Némirovski parce que c'est tout simplement l'un des premiers de cette collection d'archives radiophoniques sur lequel je suis tombé. Puis immédiatement, ce questionnement, comment un témoignage de sa voix avait pu arriver ici.
Enfin, j'ai voulu, voyez-vous, faire deux époux qui vivent selon une très belle formule anglaise que l'on cite souvent et qui est la plus belle du mariage, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'on est uni ainsi, eh bien alors là, en effet, il n'y a pas de terme au mariage, sauf la mort, il n'y en a pas d'autre.
Alors on voit parfaitement qu'on est en présence de la collection de quelqu'un qui aime le disque, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on peut pas repérer malgré tout le fait qu'il s'agit de quelqu'un qui a des admirations particulières, peut-être même comme on pourrait parler d'un fan dans des époques plus contemporaines?
Je ne suis pas sûr. On voit quand même qu'il y a un souci de garder la trace, le témoignage de voix très diverses. C'est assez documentaire et c'est quand même essentiellement pour ça que j'ai l'impression qu'il collecte ses voix.
Et donc il y a peut-être deux catégories. Il y a peut-être la catégorie de tout ce qui est le politique ou les documents historiques. Pour l'artistique, est-ce que c'est pas là qu'on trouverait justement l'aspect de l'homme qui admire ?
Avoir découvert à la discothèque de Radio France un trésor. Ces disques m'ont beaucoup intrigué et j'ai voulu en dresser un inventaire précis. Je les ai donc tous écoutés et il en ressort deux choses. En termes de date, ces enregistrements datent d'une période comprise entre février 1937 et mai 1940. Et pour la source, ils semblent tous provenir d'une seule et même station, Radio Cité.
Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9.
Cécile Méadel, vous êtes sociologue et historienne. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la radio dans les années 30 en France. Radio Cité, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Radio Cité, c'est une station qui est très emblématique et qui, d'une certaine manière, est un peu un mythe. Elle est considérée comme la radio privée populaire par excellence de l'avant-guerre et surtout de vraiment de l'extrême fin des années 30. C'est une station qui a été rachetée à Lucien Lévy par Marcel Blostein-Blanchet, qui à ce moment-là est un publicitaire réputé, qui sera de plus en plus vrai à mesure des années puisque c'est Publicis. Et donc Marcel Blostein-Blanchet veut faire de cette radio un phare et un succès populaire, mais il va aussi en faire un récit un peu mythique comme si Radio Cité avait tout inventé, comme si Radio Cité était vraiment la seule radio ouverte vers ses auditeurs. Bon, c'est évidemment faux. Il y a à ce moment-là une trentaine de stations en France et il y a des stations qui sont modestes et avec des programmes très limités. Mais il y a aussi à la même époque des stations qui vont faire comme Marcel Bleustein-Blanchet et comme Radio Cité, c'est-à-dire explorer des formats qui sont, disons, moins pompeux, plus souples, plus ouverts vers le public, avec plus des fictions, des jeux et des programmes financés par la publicité.
La minute du bon sens, la minute du bon sens. La minute du bon sens par Saint-Granier et offerte par la Boldo Florine. Car le bon sens vous commande de boire chaque soir.
La Boldo Florine qui donne santé, vigueur et joie. La Boldo Florine, la bonne tisane pour le poids.
Dans ces enregistrements, on entend différentes choses. Des interviews, des reportages, des chroniques, y compris humoristiques. Des émissions musicales et puis des choses un peu inclassables comme des micro-trottoirs. On est en présence d'archives radiophoniques très variées qui englobent presque tous les types de contenus diffusés par une station. Est-ce une pratique courante à l'époque d'archiver les émissions de radio ?
Avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'effectivement, c'est un trésor. La redécouverte de ces disques ou la découverte de ces disques émanant de radio avant la guerre, quelle qu'elle soit, est déjà en soi vraiment une très très bonne nouvelle parce que nous avons très peu d'archives radiophoniques. Donc vraiment bravo parce que ça donne très envie de les écouter et c'est quelque chose de très rare. Ce n'est pas du tout une pratique courante. C'est pour ça que c'est particulièrement remarquable d'avoir retrouvé ce fonds d'archives. Alors, on enregistre pour plusieurs raisons. On enregistre pour pouvoir éventuellement rediffuser. Par exemple, dans les stations publiques, on va enregistrer une diffusion théâtrale pour qu'elle puisse être diffusée. On enregistre la voix des grands hommes dans un objectif mémoriel. Mais on a très très peu d'archives. C'est-à-dire les disques sont quand même assez chers à l'époque. Ils étaient chers, ils se cassaient. Ça explique qu'il en reste peu.
Alors, la production radiophonique ne suppose pas un archivage. On produit, on avance, on continue, on crée. L'archivage a toujours été quelque chose d'assez complexe à envisager. Archiver, c'est récupérer les supports, les cataloguer et aussi pouvoir les stocker. Le stockage, ça coûte cher, ça prend de la place. Donc ça a toujours été une grosse difficulté. C'est vraiment avec l'arrivée de la phonothèque centrale. Alors, si je ne me trompe pas, c'est autour de entre 44, fin 44, on commence à avoir un organe national qui centralise ces supports. Donc, c'est très exceptionnel d'avoir aujourd'hui des supports aussi anciens. Vraiment, c'est un coup de chance presque.
Vincent Fromont, vous êtes responsable du secteur restauration et mastering radio à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. J'ai entre les mains des disques un peu particuliers, un peu fragiles, souples, dont la surface a l'air de, à certains endroits, partir en morceaux. Il y a écrit Piral dessus. Qu'est-ce que c'est que ces disques ?
Alors, ce que vous avez entre les mains, là, c'est d'évidence des disques qu'on appelle à gravure directe. Donc, ça ressemble beaucoup de l'extérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de vinyle. Hein, donc, ça, c'est un disque. La grosse différence, que ce disque-là, en fait, est composé de deux choses. D'abord, ce qu'on appelle une âme en métal. Alors, pour les plus anciens, c'est du zinc et ceux-là, effectivement, sont assez souples. Qu'est-ce que c'est qu'une âme en métal ? Mais en fait, c'est tout simplement un disque métallique. Et on va coucher sur ce métal une sorte de vernis plastique. Et cette surface sera gravée directement par un burin qui sera chauffé. Et on obtiendra donc l'équivalent d'un disque qu'on pourrait écouter tous les jours. Mais sauf que celui-ci sera unique. Il n'y aura pas de copie. L'équipe que j'anime à l'INA travaille principalement justement à la numérisation, la restauration à partir de ces vieux supports. Le disque à gravure directe a été en tout cas conservé à l'INA depuis 1933 jusqu'à 1958 où on arrête de produire et de diffuser à partir de disques. Et la bande magnétique, par contre, elle chevauche un peu cette période, puisqu'elle arrive en 47 et elle s'arrête dans les années 90.
Olivier Loup, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une biographie de Jean Zay parue en 2012. J'ai découvert dans les rayonnages de la discothèque de Radio France un témoignage sonore avec la voix de Jean Zay. J'aimerais vous le faire écouter.
Les associations d'étudiants ont compris en même temps que l'université qu'ils avaient le devoir de travailler ensemble. Et l'administration centrale, si elle a su que la vie active des associations, la gestion proprement dite de ces associations, devait se dérouler dans l'indépendance et dans la liberté, par contre, l'administration des grandes œuvres universitaires créées par l'Union nationale des étudiants ne pouvait pas avoir d'existence réelle si une collaboration minutieuse ne s'instituait pas entre les pouvoirs publics et l'Union nationale.
D'abord, l'objet lui-même, quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on le prend en main, quand on le fait glisser hors de sa pochette, quand on regarde les traces au crayon gras, jaune en particulier, qui viennent subdiviser l'espace des sillons pour dire, j'imagine, quelle partie on va diffuser ou pas à l'antenne, le fait que ça soit un 78 tours, mais qui soit quand même souple, on est en présence d'un objet très particulier dont on se dit, et puis après on apprend, qu'il est unique. Alors c'est irrésistible pour le chercheur, mais est-ce qu'on en comprend, c'est ce qu'on voit parce qu'il y a écrit collection Charles Wolf, c'est qu'il appartient à une collection, justement, et une collection qui sont donc des disques enregistrés, pris sur les enregistreurs d'une radio, hein, radio citée, hein, et qui sont donc des documents inestimables, parce qu'à la fois uniques, et avec des voix qui ont disparu. Quand on entend Jean Zay, on a à peine à imaginer que c'est un jeune homme, encore finalement, il a une trentaine d'années, à peine. On a l'impression d'entendre la voix d'un régime, d'avoir la Troisième République en direct avec ses façons de scander, de redoubler les syllabes comme dans collaboration, etc. Et donc, c'est très émouvant malgré tout parce qu'il y a peu de traces.
Qu'est-ce que ça apporte à un historien, ce genre de source orale? Comment est-ce qu'on l'exploite pour une recherche historique?
De deux façons, et avec toutes les possibles entre les deux. La première façon, c'est le texte. Et puis quand même, il y a l'inestimable de la voix qui porte un discours. Donc on a les deux, l'aspect sensible, du sensible de la voix et l'aspect de la construction du propos dans sa logique, qui est quand même celle d'un ministre du Front Populaire. Donc ça, ça va m'intéresser remarquablement, oui.
Alors, quand on voit les titres que vous évoquez, les voix contemporaines ou documents pour l'histoire, on se dit, bah, il est dans les pratiques effectivement mémorielles, patrimoniales de l'archive. Mais on a aussi des choses qui sont plus surprenantes. C'est-à-dire qu'on a des allocutions radiodiffusées qui sont donc probablement pas des discours formels, mais des interventions. Là, on voit que c'est Colette au journal Parlé. On voit que on a Georges Carpentier qui parle. Là aussi, c'est probablement un reportage sur le terrain. Donc, il y a cette grande étiquette, mais derrière, on a l'impression qu'il y a une bien plus large diversité de contenu que simplement les grandes voix ou les grands moments.
En fait, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers temps de l'enregistrement sonore, les supports ne pouvaient contenir que très peu d'informations. Les messages sont courts, c'est en général entre 3 et 4 minutes maximum. On imagine une émission qui est une émission de débat, donc avec des gens assis autour d'une table, on ne va pas leur demander de s'arrêter de parler toutes les 3 minutes, donc... Effectivement, il y avait un dispositif où on avait deux machines de gravure dans une cabine d'enregistrement. Alors, si c'était un reportage à l'extérieur, c'était dans un camion. Hein. Et puis, le technicien, derrière ces machines, enregistrait sur une machine la phase 1. Quand il arrivait proche de la fin de la phase 1, 30 secondes avant la fin de la phase 1, par exemple, eh bien, il commençait à enregistrer sur une autre face, sur une deuxième machine de gravure, voilà, et il faisait cette opération en permanence jusqu'à la fin de l'émission. Bon. Ensuite, pour la diffusion, eh bien, c'était beaucoup plus difficile que ça, parce qu'en fait, il fallait synchroniser en temps réel, pendant cette phase de recouvrement de 30 secondes, synchroniser la fin de la phase A avec le début de la phase B. Alors, ça s'entend très très bien quand on est attentif. C'est qu'à la fin d'une phase de disque, on a toujours beaucoup plus de souffle qu'au début d'une phase. Ce qui fait que si on bascule relativement rapidement de la fin d'une phase vers le début de la phase suivante, eh bien, on a une rupture de souffle, on a un changement de couleur sonore assez brutal.
Et là, de façon matérielle, qu'est-ce que signifie par exemple AR sur le...
Les disques ici, à peu près tous les objets qui sont conservés ici, sont couverts de petits témoignages qui sont des indications sur les pratiques de classement, de rangement de mes ancêtres documentalistes, du temps de l'ORTF, du temps de la radiodiffusion. Et donc on a effectivement plusieurs petites étiquettes qui sont collées sur la grande étiquette centrale, le macaron central du disque. La plus ancienne, c'est celle-ci, sur laquelle est écrit « Discothèque centrale de la radiodiffusion française », un petit sigle ESP, qui veut dire « Enregistrement souple », avec un numéro 398. On a une étiquette assez similaire à côté, « Discothèque centrale de la radiodiffusion télévision française ». On voit en fait la chronologie des institutions, le document reste, mais l'institution change de nom, avec cette fois une autre petite cote qui est notée, et ce AR, tout simplement, veut dire « archive ».
Et pour aller au bout de la curiosité, cette pastille verte?
Je ne sais pas, là encore, c'est le jeu auquel je vois que vous êtes en train de prendre plaisir.
Et de
toutes ces petites enquêtes et toutes ces questions qu'on se pose quand on a ce genre de document entre les mains et qu'on essaye un petit peu de reconstituer son parcours en tant qu'objet, je pense que ça correspond à une étape. Je pense que c'est pour désigner un changement de statut dans la vie de ce document comme objet documentaire à Radio France.
Qui garde sa part de mystère, c'est pas plus mal.
Chose d'un peu truculent pour conclure. On parlait de Colette tout à l'heure. On vous fait quand même écouter.
Je parle pour dire que j'ai la ferme intention de ne rien dire. D'abord parce que je suis jurée et qu'un juré doit être discret. Et ensuite parce que je suis à jeun et que je n'aime pas parler à jeun.
Oui, c'est... C'est très amusant cette intervention de Colette. On voit bien qu'on l'a saisie à la sortie d'un juré littéraire, j'imagine. Et elle est très, très habile et très drôle comme on la connaît. Donc oui, c'est bien un trésor, je vous le confirme.
Les ondes englouties. Avec Olivier Loube, Cécile Méadel, Vincent Fromont. Avec la voix de Myriam Ajar. Documentation, Célian Guillemard, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Sur les traces de Charles Wolff, L'Homme Archive, un documentaire de Thomas Henry et Yvon Croisier. Olivier Loube, vous êtes historien. Dans la deuxième caisse sur la table, on a des disques que Charles Wolff a catégorisés différemment. Tout à l'heure, on a plutôt passé en revue ce que Charles Wolff a catégorisé comme voix contemporaine, donc des voix de personnes, personnalités illustres qui passaient à la radio. Dans cette seconde caisse, on a davantage ce que lui appelle des documents d'histoire. En voilà un premier exemple. Événement d'Espagne. Interview d'une réfugiée barcelonaise au Pertus, 29 janvier 1939.
Waouh ! Alors là, je dis waouh parce que ça, c'est des documents particulièrement rares. Nous, avec l'idée des reporters d'images maintenant de nos jours, etc., ces interviews comme ça qui se font, il faut imaginer, je ne sais pas avec quel matériel ça a été enregistré. Le passage du Pertus, si vous redonnez la date.
29 janvier 1939.
Il faut imaginer que ça se fait dans des conditions de froid, décrites par tous les témoins. Hein. À l'époque, il faut, je ne sais pas, qui a monté le matériel pour aller enregistrer ça. Franchement, ça, c'est un document qui, pour l'histoire de la retirada, est un document qui, je pense, pour tous mes collègues spécialistes de la guerre d'Espagne, va être prodigieusement intéressant.
Nous nous sommes réveillés ce matin, monsieur l'auditeur, avec une pluie diluvienne qui tombait sur Perpignan. Et avec l'espoir de trouver au Pertus le même calme que nous avions remarqué hier à Cerbère, nous sommes montés jusqu'ici. Et là, ce qui nous attendait était purement effroyable. Je vous parle en ce moment de la rue principale du Pertus. Et si je vous parle mal, mes chers auditeurs, c'est que j'ai beaucoup de peine à contenir mon émotion.
Sur les traces de Charles Wolff, l'homme archive. Thomas Henry, Yvon Croisier. Épisode 2, l'inconnu que tout le monde connaît.
Le Pertus n'est qu'une vaste cour des miracles où toute une humanité est soumise à une souffrance indescriptible à l'heure actuelle. Et la pluie diluvienne qui a tombé toute la nuit et qui, tandis que je vous parle, ne cesse pas à ajouter à la souffrance de ces gens qui, depuis quelques jours, naturellement, sont privés de nourriture.
Là, on a un disque tout à fait intéressant, un document d'histoire et aussi un document dans l'histoire de la radio en France. Charles Wolff, c'est intéressant, a noté une date. Il l'a noté rétrospectivement parce qu'elle est fausse. Il a noté 22 février 38, je crois que c'est plutôt le 11 mars 38. C'est le premier disque d'un ensemble de 12 disques dans sa collection sur lesquels sont enregistrés ce que lui appelle le dernier message de Schuschnigg.
Ah, Schuschnigg, le chancelier autrichien. Effectivement, juste au moment de l'Anschluss, au moment où il va y avoir donc cette réunion forcée hein, de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Et ça, c'est un disque, effectivement, alors pour le coup historique. On en a certainement le verbatim, là, pour le coup, le texte est connu, il a été diffusé. L'audio, je ne suis pas sûr qu'il soit fréquent.
C'est visiblement du reportage.
C'est Silmé Adel. Historienne.
Les événements d'Autriche devant la chancellerie fédérale à Vienne, etc. On sent bien que tout ça, c'est vraiment la montée des périls. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, on est vraiment dans la radio qui accompagne l'événement, ce qui est une nouveauté. ce qui est vraiment une nouveauté, parce que il a fallu pour ça d'abord qu'il y ait des capacités de reportage. Le reportage, c'est très très lourd, c'est très compliqué. Là, on n'a rien, on n'a vraiment aucune archive. Parce que les voix des grandes personnalités politiques, que ce soit les étrangers, on voit qu'il y a Roosevelt, Mussolini et d'autres encore, ça, on en a plus parce que c'était éventuellement enregistré sous forme de disques dans le commerce ou pour des usages pédagogiques, politiques, etc. En revanche, ce que vous venez d'expliquer, ça on l'a très peu.
Voilà, là, on reconnaît toujours l'écriture de Charles Wolff, document d'histoire. Événement d'Autriche, arrivée d'Hitler à Linz, donc le 12 mars 1938.
Et là, on est plutôt en présence de sons, comme on dirait de nos jours pour la radio, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de tous les bruits d'ambiance lorsque le Führer arrive J'imagine, c'est ça, c'est pas son discours hein, qu'il aurait prononcé ce jour-là.
C'est ça, c'est à mon avis ce qui rend ces documents particulièrement intéressants, tous ces sons d'ambiance qui ont été captés, où on entend la foule, les acclamations, peut-être la...
Et là, la question, c'est l'usage, parce que qu'est-ce qu'il en a fait ou qu'est-ce qu'en faisait déjà la radio qui le diffusait? Si ça a été diffusé, on peut imaginer que oui. Et ensuite, lui-même, pourquoi garder le son pour montrer la ferveur?
Et d'évoquer la propagande qu'on peut faire avec ce genre de disque, mais aussi une sorte de contre-propagande en disant, écoutez-le, vous prendrez conscience des dangers. Et il a conscience, lui, qui aime la musique, mais qui aime le son, qui aime l'archive, qui aime documenter, il a conscience du pouvoir de ça, je pense.
Nicht uns zum Trutz, sondern zur klaren und endgültigen Bestätigung, dass das deutsche Volk in seiner Gesamtheit angetreten ist, deutsches Recht vor aller Welt zu sichern und für alle Zeiten zu schützen.
Voyant son écriture et ce qu'il écrit, la façon dont il définit les moments historiques dont il parle, je suis frappé par le fait qu'il parle d'événements. Nous, beaucoup plus tard, événements, ce sera une façon, un cache-misère, pour ne pas dire les guerres, les événements d'Algérie, hein, par exemple. Et là, lui, en revanche, il emploie événements, j'allais dire, comme un terme qui signifie peut-être simplement un moment remarquable, dans une contemporanéité qui, comme il est remarquable, rend l'événement historique.
Alors... dernier disque que je voudrais vous montrer, Olivier Loub, message de Pierre Lot, président du Conseil belge. Je l'ai sorti pour sa date, 28 mai 1940. De ce que j'en sais, c'est la dernière archive radiophonique que Charles Wolff a enregistrée, récupérée. Et c'est juste avant qu'il quitte Paris pour se réfugier à Toulouse en juin 1940. Donc c'est le dernier disque, entre guillemets, entrer dans sa collection.
C'est un peu comme les dernières lettres. Hein, là, c'est le dernier document enregistré qu'il va conserver. Et évidemment, là, il est très touchant, ce disque-là.
Après la découverte des disques de Charles Wolff, j'ai décidé de me lancer dans une enquête sur ses traces et dans cet immense entrepôt de la documentation de Radio France. On a des archives de presse, c'est ce qu'on appelle la documentation d'actualité. C'est des petites coupures de presse qui ont été découpées et classées dans des dossiers sur tous les sujets possibles et imaginables. Et on a notamment des dossiers biographiques. Et je vais regarder si je trouve un article sur Charles Wolff. WOD, WOL, voilà, Wolff, Camille Wolff, Charles Wolff, entre Camille et Christian Wolff. C'est un article sur trois colonnes, ça vient d'un journal qui s'appelait Volonté, daté du 23 mai 1945. Il y a deux textes, l'un de Georges Altman, l'autre de Yves Lévy. Charles Wolff Mort pour la France, mort pour la liberté, a été mon ami. Nous sommes nombreux à lui devoir les joies musicales les plus rares, les plus pures. Il avait patiemment, amoureusement rassemblé la plus admirable collection de disques qui soit en France. Nous nous souviendrons longtemps de ses soirées dans son petit pavillon du 14e arrondissement, quand Charles faisait tourner les plus beaux enregistrements des plus belles musiques. Il y a aussi au milieu de l'article une sorte de gravure. On peut imaginer que ça le représente. C'est un homme de trois quarts, le visage baissé, qui a l'air très brun. C'était un artiste et même un fantaisiste, un bohème, mal adapté à la vie quotidienne, parfaitement insoucieux de faire carrière. Mais ce lunaire était fermement, passionnément attaché à la cause de la liberté et de la dignité humaine. Il lui était impossible de trahir ou de faiblir quand il s'agissait de principes à défendre, de traquer à sauver.
Ceux qui ne reviendront plus. Charles Wolf par George Altman. Ce doux anarchiste de jadis est maintenant un de nos martyrs. Et quand je pense aux brutes miliciennes s'acharnant sur son pauvre corps sans défense, j'entends encore sa voix douce murmurer en tirant délicatement un album de sa discothèque. Écoute ça, mon vieux. Tu m'en diras des nouvelles. C'est du couperin. Je ne pourrai plus jamais entendre cette musique exquise, si noble, si digne, si française, sans penser à Charles Wolf, mort pour la beauté et la dignité de l'homme.
Benjamin Lallier, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire ouvrière. Je m'intéresse à un personnage qui s'appelle Charles Wolf. Et hormis un article dans les archives de presse de Radio France, je n'ai trouvé qu'un seul texte à son sujet sur Internet. C'est une notice biographique dans la version en ligne du Métron. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le Métron ?
Oui, alors le Métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Mais en fait, à l'origine, le Métron est un vieux projet qui date des années 30. Et en 1955, un historien, Jean Métron, reprend à son compte ce projet et le relance. Alors, qui est dans le Métron ? On peut dire, pour faire le plus simple, que en fait, le dictionnaire entend être le dictionnaire des militants qui ont exercé une responsabilité au sein d'une organisation, du mouvement ouvrier, mais qui se sont illustrés aussi lors d'un événement particulier, que ce soit une grève, une révolte, une insurrection, voire une révolution. Mais on y retrouve également de nombreux intellectuels qui sont militants ou non, mais qui ont influé par leur action, par leurs œuvres, sur l'évolution du mouvement ouvrier ou plus largement aujourd'hui du mouvement social.
Quand on parcourt ce texte sur Charles Wolf, on lit d'une part des éléments biographiques sur ses origines alsaciennes, sur ses activités de journaliste, de critique de disques, de traducteur, mais on découvre aussi les différentes facettes de son engagement dans l'antifascisme, dans le courant de la littérature prolétarienne, dans la guerre d'Espagne et enfin dans la résistance. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent dans ce parcours ? Est-ce que c'est un profil classique dans le Métron ?
Alors, c'est sur le fond, on va dire, sur la vie militante de Charles Wolf, on voit que il y a des multiples voies, finalement, au militantisme. Ici, on a un rapport qui est avant tout intellectuel à l'injustice, au dominé, avant d'être une expérience sociale vécue. Puisque Charles Wolf vit dans un milieu, alors, c'est pas la grande bourgeoisie, mais il vit quand même dans un milieu petit bourgeois. Il fait ses études à Louis le Grand. Il devient journaliste. Quand on regarde un petit peu pour la quatrième période du dictionnaire dans lequel se trouve Charles Wolf, on retrouve 647 journalistes. Donc, on retrouve malgré tout là, à la fois sur le fond et sur la forme, un profil assez classique.
Plus j'avance dans cette enquête, plus je m'attache à la personnalité de Charles Wolff que je découvre petit à petit. Et maintenant, je suis à la recherche de documents, des lettres, des correspondances, des archives qui me permettraient d'en savoir plus sur sa personnalité. Et Constance, avec qui j'ai rendez-vous, a trouvé des lettres que Charles Wolff a envoyées à Henri Poulaï. Donc, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à Constance Barbarescu. Où sommes-nous ?
Alors, nous sommes dans l'aile droite de la maison Raspail, une maison qui se trouve à Cachan. Et dans cette aile droite de la maison Raspail se trouve le fonds d'archives de l'écrivain Henri Poulaï, qui est né en 1896. Il est mort en 1980. Il a légué ses archives à la ville de Cachan. Et Poulaï gagne aussi une certaine notoriété durant l'entre-deux-guerres parce qu'il est le chef de file de la littérature prolétarienne écrite par et pour les ouvriers et les paysans.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans les archives d'Henri Poulaï ?
On trouve des correspondances et on trouve aussi des objets assez intéressants. Ce sont les dossiers ou recueils que Poulaï a fabriqués sur différentes thématiques. Le folklore, l'art, la littérature, la chanson, l'histoire. Donc ce sont des classeurs, des pochettes cartonnées. Il fait des trous aux extrémités, il accroche de la ficelle et il range ensuite toute sa documentation. Je suis en train de classer les archives. On est à plus de 2700 items classés.
Constance Barbarescu, vous avez préparé pour moi des lettres que Charles Wolff a envoyé à Henri Poulaï. Alors je vois qu'il y a en réalité deux dossiers. Il y a celui de Charles Wolff et à côté, vous avez aussi sorti un dossier au nom de Sylvain Wolff, qui est le grand frère de Charles Wolff. Mais là, c'est très touchant de découvrir des lettres. Cher ami, deux rendez-vous tardifs avec Posner Moussinac à propos de Brecht et avec Krakauer m'oblige à vous demander de remettre le dîner de ce soir. Mes amitiés hâtives à toute la famille à lundi. C'est daté de 1935. Et il y a aussi, qu'est-ce que c'est ?
Un tapuscrit qui est daté de 1930. Un tapuscrit qui s'intitule « Poète expressionniste allemand, note et traduction » par Charles Wolff.
Courte étude, préface montrant l'unité du mouvement expressionniste depuis les poèmes anti-guerriers et prophétiques de Heim et Stadler, Werfel jusqu'à Ossietzky et Brecht. Et ensuite,
un choix représentant une vingtaine de poèmes.
Oui, c'est des traductions par Charles Wolff. Mais 1930, Wolff est né en 1904, c'est-à-dire qu'il avait 26 ans.
Là, c'est aussi intéressant. J'ai découvert un inédit intéressant de Poulaï qui voulait intituler « Souvenirs politiques et littéraires d'un demi-siècle ». Il y a à peu près presque 30 pages dans lesquelles Poulaï parle de Wolff, de sa rencontre avec Wolff, de la collection de disques de Wolff. Il parle effectivement son intérêt pour la poésie allemande et ça se termine sur la fin de vie de Wolff.
Alors Sylvain Wolff, je vais ouvrir l'autre dossier. Je vois que ce sont 1947, donc c'est donc après la mort de Wolff. Hein, Wolff est mort en 1944. Je vois qu'il est question, si je comprends bien, de la bibliothèque de Charles Wolff. Je vous remercie de votre lettre du 10 juillet. Donc, m'apporte toute précision sur la vente de la bibliothèque de Charles. Je suis convaincu que si vous me conseillez d'accepter l'offre de 70 000 francs du libraire M. Vidal, c'est que vous la jugez acceptable. Donc on comprend que Poulaï a été impliqué dans la vente de la bibliothèque de Charles Wolff après la guerre. Ça pose aussi plein de questions sur le devenir de cette bibliothèque, mais aussi de la collection de disques, pour essayer de comprendre comment elle est arrivée à la discothèque de Radio France. Ouais.
Thank you. Henri Monnier, À bâton rompu, édition Pierre Auray, 1954. Plus lettré qu'un bénédictin du XVIe, Wolf passe sa vie du rayon des livres à celui des disques. Combien de fois le rencontrerai-je sur les quais ou dans les petites rues de Saint-Germain-des-Prés, à Anans ou le fait de ses précieux objets. L'invitation, il l'a facile. Et son petit pavillon de la rue Boulard, qu'un propriétaire crédule a eu la candeur de lui louer, ne désemplit pas. Je me rappelle un soir que, par lui convié, nous arrivons à Zan et moi, rue Boulard, où déjà attendent Pierre Kallmann, Rimond de Seigne, Henri Poulaille, Ziromski, Georges Altman, Mario Tosin, le peintre, Mathias Taon, l'éditeur, Gustave Joly, le critique, Serge et Zenia de Günzbourg, Yves Lévy, Desnos et Yuki, plus une bonne demi-douzaine de candidats au festin annoncé par le maître de séance. « Vous verrez, disait Fernande avec sérénité, que ce salaud-là n'arrivera pas. C'est lui qui doit ramener le rôti et le pinard. » Très en retard, il est arrivé, suant la joie. Les plus fastueux d'entre nous s'enfurent au bistrot proche quérir sandwich et flacon. Le rôti fut doublé au pied levé par un récital folklorique et la contemplation des compositions bouleversantes de Doré vint couronner le régal.
J'ai suivi mes recherches sur Internet et j'ai découvert que aux Archives nationales, grâce à la salle des inventaires virtuels, il y avait un dossier au nom de Charles Wolf à la Sûreté nationale. Donc je me suis rendu à Pierrefitte pour consulter ce dossier et rencontrer Émilie Charrier. Vous êtes archiviste, vous êtes responsable des fonds police aux Archives nationales. On a sous les yeux ce dossier que vous avez sorti.
Donc c'est un dossier nominatif au nom de Charles Wolf, effectivement. On a sur la couverture du dossier son nom, prénom, sa date de naissance, son métier. À l'époque, il est étudiant. Ensuite, on a ce qui est le motif de fichage au tampon, qui le signale comme anarchiste. Et en dessous, son adresse, 3 places d'Anvers à Paris. Et là, quand on ouvre le dossier, on se rend compte qu'il est ouvert en 1925 par une première note qui est transmise à la direction de la Sûreté. C'est pas écrit, mais c'est probablement par la préfecture de police de Paris, puisque Charles Wolf est parisien. Et il est signalé comme militant anarchiste.
Il est fait mention de réunions de la jeunesse anarchiste, du groupe anarchiste universitaire des 5e et 6e arrondissements. Là, on voit que le 14 novembre dernier, dans une réunion tenue par ce groupement, il a fait une causerie sur la philosophie hindoue et l'anarchisme. Il y a quoi ? Il y a peut-être une quinzaine de pages à l'intérieur. Mmh. Donc ça commence en 1925. Et le dernier document doit dater de 1938. Mmh. L'anarchiste Charles Wolf, qui était domicilié 29 rue Boulard, a quitté son domicile le 22 août pour se rendre en Espagne gouvernementale. Sa maîtresse reçoit sa correspondance et la lui fait parvenir. Wolf figure sur la liste des anarchistes du département de la Seine, transmise bimensuellement au cabinet.
Ça, c'est vrai que sur, notamment les notes sur, de 1925 sont extrêmement précises. Et ça doit correspondre à... En 1925, sans doute une volonté de recenser tous les anarchistes parisiens. Mais après, il n'est pas particulièrement suivi. Donc je dirais que le dossier est assez représentatif des dossiers de surveillance politique qu'on peut avoir.
André Sévry, Vie et mort d'Augustin Abaru. Édition Pro Libros, 1947. Quittant la coupole, nous remontions le boulevard Raspail jusqu'à la place d'Enfer-Rochereau, puis la tranquille rue Boulard. Nous ouvrions la porte basse, traversions les jardins pour arriver à la maisonnette où la corneille de Fernande nous accueillait avec des courbettes picoureuses. Nous pouvions surgir à toute heure de la nuit. Charlot était là, prêt à faire entendre les derniers disques venus d'Amérique ou d'ailleurs. Avec Charlot, on n'avait pas à se soucier de la conversation. Il l'entretenait tout seul avec esprit et componction, une pointe d'emphase dont il souriait lui-même. Permettez, je vais vous faire entendre les derniers enregistrements Cowboys que j'ai reçus hier de Philadelphie. Naturellement, Philadelphie se situait boulevard Haussmann, chez un marchand de disques. Mais quoi ? Comme dit mon bon maître Lucien Descaves, pitié pour la vérité toute nue. Le disque tournait. Et Fernande, mousmé sculptural, servait le thé et le gros rouquin. Jojo, Marc Bernard, HP, Gassier, Poulaille, Sauvage, Labadier, Valois, Guillaumaille, qui d'autre encore ? Je ne sais. Il en venait et il en repartait toute la nuit. Ça durait jusqu'à 4 heures du matin.
Nishari, vous avez préparé un autre dossier. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur exactement ? Il est pas tout à fait identique.
Vous avez en bas à droite la date d'ouverture du dossier, qui est toujours au nom de Charles Wolff. Donc c'est un dossier qui a été ouvert en juin 1942. Et on est là à Vichy, puisque les services de police de la Sûreté nationale ont quitté Paris pour Vichy. Et en fait, vous avez en quelque sorte la suite du dossier, puisque les policiers français n'avaient plus accès au premier dossier qui était sous les mains nazies. Il est écrit « possède un dossier au fichier criminel numéro 428-142 et dossier 15257/134 ». Un dossier criminel, donc pour une affaire, une enquête criminelle. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on ouvre le dossier, il n'est pas du tout question de cette raison de répression. Ce qui s'est passé, on ne le sait pas. Mais les éléments qui sont repris sont ceux du premier dossier, puisque, de nouveau, quand elle est interrogée, la préfecture de police signale qu'il est fiché en tant que militant anarchiste et qu'ayant quitté Paris, il va être rayé de cette liste des anarchistes parisiens.
Anthologie des écrivains morts à la guerre, 1939-1945, Albin Michel, 1960. Charles Wolff, par Jean Cassou. Poète, journaliste, amateur de musique et de disques, patient collectionneur d'une admirable discothèque, c'est sous ses aspects divers, et plus encore sous celui de l'ami le plus érudit, le plus disert et le plus sensible, que l'on connaissait à Paris, Charles Wolff.
L'inconnu que tout le monde connaît, avec Olivier Loub, Cécile Méadel, Benjamin Lallier, Émilie Charrier, Constance Barbaresco, avec la voix de Myriam Ajar. Documentation, Célian Guillemard, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Sur les traces de Charles Wolff, l'homme archive, un documentaire de Thomas Henry et Yvon Croisier.